BW. Vue d'Allemagne.
Que veut dire être juif aujourd'hui en Allemagne? C'est la question au cœur de l'année de la vie et de la culture juive qui vient d'être lancée pour marquer 1700 ans de présence juive en Allemagne. Dans la deuxième partie de ce magazine, on vous emmène au Brésil où un groupe de 180 favelas ont décidé de créer leur propre banque. Objectif, soutenir financièrement les petites entreprises et commerces dans les quartiers pauvres. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Anne Le Touzé au micro, Willkommen, bienvenue, Shalom.
Je suis Nathan, j'ai 13 ans, et être juif pour moi, c'est avoir une histoire.
Sentir 3000 ans d'histoire couler dans mes veines.
Être juif, c'est traverser la vie les yeux ouverts.
Conserver le passé tout en vivant à l'excès dans le présent.
Tradition. Vivre des traditions et des valeurs et les transmettre.
Je suis juive dans les moindres recoins de mon âme et fan du Bayern.
Extrait de l'émission spéciale de l'ARD, la première chaîne publique allemande, pour le lancement le 21 février d'une année dédiée à la vie et à la culture juive en Allemagne. Cela fait en effet 1700 ans que les juifs sont présents dans le pays, plus précisément depuis une loi romaine de l'an 321. Explication d'Abraham Lehrer, vice-président du Conseil central des juifs d'Allemagne.
Im Jahr 321.
En l'an 321, un décret de l'empereur Constantin a été remis au conseil municipal de Cologne, permettant aux juifs de participer à la curie, la pleine citoyenneté de vote. Ce document, qui a le caractère d'une loi, est la première preuve sûre de l'existence des juifs et de la vie juive à Cologne et dans la région que nous appelons aujourd'hui l'Europe occidentale. Ce petit épisode insignifiant du règne d'un empereur romain représente pour la communauté juive une pierre angulaire de son histoire dans la diaspora.
Alors pour la petite histoire, c'est un pont sur le Rhin qui est à l'origine du décret. La municipalité de Cologne, alors capitale de la province romaine de Germanie inférieure, voulait le réparer. Mais elle manquait d'argent. On voit au passage que les problèmes financiers des communes ne datent pas d'hier. Eh bien c'est un juif nommé Isaac qui a proposé de financer la réparation. Mais il faut pour cela qu'il siège au conseil municipal. Raison pour laquelle les habitants de Cologne ont écrit à l'empereur Constantin et obtenu ce décret. 1700 ans plus tard, c'est dans la synagogue de Cologne qu'a été lancée l'année anniversaire, malheureusement sans public en raison des restrictions anti-coronavirus toujours en vigueur, mais quand même avec des invités de marque tels que le président fédéral Frank-Walter Steinmeier.
En cette année de célébration, il y a eu une infinité de choses à découvrir et à redécouvrir, que ce soit en philosophie, en littérature, en peinture et en musique, en sciences, en médecine et en économie. Les Juifs ont contribué à écrire notre histoire, à la façonner et à faire briller notre culture. Le judaïsme a contribué de manière décisive à l'entrée de l'Allemagne dans sa modernité.
L'objectif de cette année est de célébrer la culture juive dans toute sa diversité. Mais il s'agit aussi de démonter les préjugés sur les juifs qui sont encore nombreux.
Ton appartenance religieuse, ton origine, ta culture, pour moi c'est...
La pauvre femme, elle n'arrive pas à dire le mot juif. Où est la difficulté? Juif, juif, juif.
Extrait du film Mazel Tov Cocktail, sorti en 2020. Le héros, un juif de 18 ans, a frappé un de ses camarades. Sommé de présenter des excuses, il croise sur son chemin des personnes qui le renvoient systématiquement à son origine juive, volontairement ou non. Cette méconnaissance est à la base des préjugés antisémites, prévient Joseph Schuster, le président du Conseil central des Juifs d'Allemagne.
Aujourd'hui encore, même celui qui n'a jamais rencontré personnellement un juif qui ne s'intéresse pas vraiment au judaïsme connaît des préjugés antisémites. Ils sont transmis de génération en génération et moins on en sait sur les juifs, mieux ils se maintiennent. Nous devons donc lutter contre cela, en particulier dans les écoles. Il faut non seulement transmettre davantage de connaissances sur le judaïsme, mais aussi sur l'antisémitisme.
Mein Name ist Ben Salomo, ich bin Rapper,
Buchautor. Mon nom est Ben Salomo, je suis rappeur, auteur et je m'engage dans la prévention contre l'antisémitisme. Ma première expérience antisémite, je l'ai eue à 11 ans avec mon meilleur ami, puis ensuite à l'école. Cela concerne malheureusement les Juifs 24 heures sur 24 dans ce pays, et beaucoup se demandent combien de temps on va encore pouvoir vivre ici, est-ce qu'on peut rester, est-ce qu'on peut nous protéger, et est-ce que quelqu'un nous écoute ?
Werden wir hier überhaupt geschützt und wird uns überhaupt zugehört?
Wie viele Mahnmale braucht es noch, bis uns die letzte Träne aus den Augen tropft? Jüdisches Leben genau genommen, Synagogen, Museen wie ausgestopft. Oder hinter schusssicherem Panzerglas, bereit für den nächsten, der einen Anschlag plant. Warten auf das nächste Massaker, als Israel-Kritik getan, das darf man ja.
L'antisémitisme, Suzanne Sideropoulos a voulu l'épargner à ses deux enfants, mais la réalité l'a rattrapée suite à l'attentat de Halle en octobre 2019, lorsqu'un extrémiste a tenté de forcer l'entrée d'une synagogue pour y tuer les fidèles réunis pour Yom Kippour, avant d'abattre au hasard deux personnes dans la rue.
Depuis que je suis enfant, je n'ai jamais vu d'autre image qu'une synagogue avec la police devant. Pour mes enfants, c'est exactement la même chose. Je pense qu'ils ne savaient pas, jusqu'à récemment, que toutes les écoles ne sont pas surveillées par la police. On en a parlé pour la première fois il y a peu de temps à la maison, à cause de Hanau et de Halle. Mes enfants sont rentrés à la maison tout excités et ils ont dit « Maman, un homme a voulu entrer dans la synagogue avec un fusil et tirer sur les gens ». Pourquoi ? Et j'ai dû, pour la première fois, leur expliquer qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas.
L'antisémitisme connaît un regain inquiétant à travers le monde, notamment depuis le début de la pandémie de Covid-19 qui a ravivé les théories sur un soi-disant complot juif international. Mais il est d'autant moins tolérable en Allemagne, un pays responsable de l'extermination de 6 millions de juifs. C'est aussi un des messages qu'a voulu faire passer le président Frank-Walter Steinmeier lors de la cérémonie de lancement de l'année de la vie juive.
S'il y a une chose que je peux souhaiter pour cette année de célébration en tant que président fédéral, c'est non seulement une affirmation claire que les Juifs d'Allemagne font partie de notre « nous » commun, mais aussi que nous nous confrontions résolument à ceux qui mettent ou remettent cela encore en question. Le souvenir de 1700 ans d'histoire commune nous apprend que la République fédérale d'Allemagne ne peut être complètement elle-même que si les Juifs se sentent complètement chez eux ici.
Wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen.
De nombreuses manifestations culturelles sont prévues tout au long de l'année à travers le pays pour célébrer la vie et la culture juive en Allemagne, mais aussi la coexistence entre les religions.
Dieduschka, du hast ihn vertraut, doch dein Vertrauen wurde mir geraubt. Trotz all dem bin ich hier zu Haus. Seit 1700 Jahren ist das zu glauben. Und wenn mich einmal meine Kinder fragen, aber wie war's in deinen Kindertagen?
Vue d'Allemagne, deuxième partie, cap sur le Brésil à présent. Au Brésil donc, 180 favelas organisées au sein du groupe G10 ont décidé de créer leur propre banque. L'institution financière va soutenir les entrepreneurs locaux car les communautés, durement frappées par la crise économique et la pandémie, sont également des bassins d'emploi et de création de richesses. Mais attention, la G10 Bank n'est pas une banque communautaire, c'est bien une banque, comme l'explique Gilson Rodriguez, avec lequel commence ce reportage de notre correspondante Marino Dacher.
Il y a des gens qui sont morts ici parce que le SAMU ne vient pas jusqu'à nous. Vous les appelez, ils ne viennent pas. Et tout le monde s'en fiche. On ne peut pas compter sur le gouvernement. Pour moi, la politique est malhonnête. Tout est polarisé et divisé, comme si un habitant de la favela de Paraisópolis valait moins qu'un habitant du quartier de Morumbi, quand on parle des Brésiliens de São Paulo. Donc, on veut s'unir. On est tous Brésiliens. Les vies ont le même prix.
Dans son vaste bureau climatisé, Gilson Rodriguez est très demandé. Il préside l'Union des habitants de Paraisópolis, l'une des plus grandes favelas de São Paulo, avec 100 000 habitants. Son téléphone est sur silencieux, sinon les notifications des groupes WhatsApp arrivent par dizaines. Ce matin, il ne peut cacher sa fatigue et les larmes qui montent après Une année de pandémie qui touche particulièrement les habitants des favelas les plus précaires, ceux qui ont le moins accès au système de santé. Et ce matin, il veut surtout insister sur la richesse produite ici par les habitants et parler de la banque G10 qui va enfin regarder ceux qui vivent dans ces quartiers populaires non comme des mauvais payeurs, mais comme des personnes solvables et donc leur accorder des crédits.
Nous créons la banque de développement de la favela pour soutenir les petits entrepreneurs et commerces des favelas dans tout le Brésil. Alors comment on fait ? On prend des commerces ou des projets qui existent déjà et des entrepreneurs qui acceptent de suivre des formations avec des mentors et qui ont besoin d'argent. Le contexte est favorable parce que les commerces des favelas n'ont pas fait faillite. Le public est captif. Le riz, les haricots, on l'achète à côté de chez soi, on ne va pas payer un bus pour aller faire ses courses. Ça aide Paraisópolis à se développer. D'ailleurs, on est convaincu que le futur des villes, c'est de vivre, travailler, consommer et étudier dans le même quartier. On privilégie les femmes, chefs de famille, les femmes noires, parce qu'on s'est rendu compte que ce sont elles les plus exclues de l'accès au crédit. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai.
Plus de 20% des habitants travaillent ici même, dans l'un des 14 000 commerces de la favela, mais une facture non payée devient en quelques mois, à cause des intérêts exorbitants d'environ 3%, une dette impossible à rembourser. Et l'inscription du mauvais payeur au service de protection du crédit, le SPC, lui interdit à vie l'accès au crédit.
On regarde aussi le profil social, la motivation dans le regard, l'envie d'entreprendre. Même si les gens ont déjà une dette, ils ont une valeur qui va au-delà du financier. Bien sûr, ils vont devoir rembourser car la banque a besoin d'être rentable. Mais on a un rôle social que les banques sont loin de garantir. Vous savez, les banques sont les institutions qui ont le plus gagné, même pendant la pandémie.
10 projets sont sélectionnés pour commencer avec un crédit allant de 1 000 à 15 000 reais, de 150 à 2 300 euros environ. La banque G10 proposera une carte de crédit, mais aussi un suivi au sein de l'école des leaders transformateurs. Résultat d'une flexibilisation du code du travail en 2017, consolidée depuis par la politique ultralibérale du gouvernement de Jair Bolsonaro, plus de 40 millions de Brésiliens sont aujourd'hui des travailleurs informels ou auto-entrepreneurs, payés à la journée est privée de protection sociale. Alors, dans l'atelier de couture Costurando Sonhos, coudre des rêves, ce crédit permet de construire des projets à long terme. Maria Niuji Santos, 56 ans, n'a, elle, jamais pu investir car les banques ne lui prêtaient pas d'argent pour son projet.
Avec ce crédit, j'achèterai la matière première qu'il me faut, du tissu pour la production. Si quelqu'un me commande 3000 ou 5000 masques, je n'ai pas de stock.
À l'approche de l'heure du déjeuner, des dizaines de familles font la queue devant le pavillon social. Le pavillon social, c'est un grand bâtiment en béton qui regroupe les projets sociaux. Ici, les dons se font rares et les repas gratuits sont de plus en plus simples. Et ces jours-ci, 500 barquettes seulement sont proposées. Pas assez pour nourrir tout le monde. Il manque même le haricot noir et le riz, deux aliments de base au Brésil. Alors Juliana da Costa montre, un peu dépitée, ses assiettes de spaghettis et de rôti de porc. Mais elle reste déterminée avec ses 10 cuisinières à demander un crédit à la banque G10 pour acheter des aliments, mais pas seulement.
Une femme indépendante peut rompre le cycle de la violence domestique. Elle peut nourrir sa famille. Une femme victime de violence sur 4 ne peut pas dénoncer son agresseur car elle dépend de lui financièrement. Notre restaurant est né de cette idée, donner aux femmes et aux filles une autonomie financière et qu'on puisse être libre de nos choix. Ce n'est pas juste préparer des repas, c'est une liberté possible.
Dehors, la livraison des repas a commencé, on voit déjà qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis, petit moment de grâce, ce jour-là, des panettones donnés par des entreprises après les fêtes sont distribués aux habitants parce que Noël ou février, ces gâteaux redonnent le sourire à ceux qui ont faim.
Un reportage de Marino Dachar à Sao Paulo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flo Tatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.
Πως μωρέ παιδιά, τσοπανάκος ήμουνα, άντε τσοπανάκος.
πανακοσίμουνα, πρόβατα για φύλαγα.
Green slopes, flip slopes, impressive but total and inspired TikTok. Always on the move, always on the move now. Don't care to prove to you what I'm about. Always on the move, always on the move now. Don't care to prove to you what I'm about.
Love my roots, but I ain't no tree. Migrating like a bird, anywhere I wanna be.
Ay, δεν είχα κάπα, μωρέ παιδιά. Είχα κάπα, είχα γλίτσα. Ay, δεν είχα κάπα, είχα γλίτσα. Μ' αγαπούσαν τα κορίτσα.
Everybody's a superstar. We are the kids of the diaspora.